J'ai découvert en cours de route à quel point ça permettait de créer ce qu'on peut appeler des empowered teams, c'est-à-dire des équipes qui se sentent responsables des résultats de l'entreprise, parce qu'en fait on leur a donné les moyens de se sentir responsables et on leur a prouvé qu'on était en confiance parce que c'est eux qui définissent quels sont les projets qu'ils vont ou pas mettre pour réaliser les objectifs.
Hello et bienvenue sur le podcast People First. Ce podcast invite les leaders positifs de demain à créer des cultures fortes, saines et impactantes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah, partenaire chez Teampact Ventures, le fonds d'investissement qui mobilise le sport de haut niveau pour créer des équipes qui gagnent. Chez Teampact, on est convaincus qu'impact positif et performance, ça passe par les employés. Donc on cherche toujours à répondre à la même question. Quelles entreprises seront attirées, recruter et faire grandir les talents. People First a pour vocation de partager ses apprentissages pour inspirer celles et ceux qui sont convaincus que la culture est un vecteur de performance, de sens et de bien-être. Entrepreneurs, Chief People Officer, experts ou expertes pointues d'un sujet, les invités offrent un regard actionnable et concret sur les leviers people permettant de créer des cultures où chacun et chacune peut exprimer le meilleur. Une question, une suggestion, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante sarah@teampact.ventures. Et si vous appréciez ce podcast, laissez-moi une note sur la plateforme de votre choix. Bonne écoute!
Aujourd'hui, dans le dernier épisode du People First Podcast, dans la série Startup Bootstrap, j'ai le plaisir d'accueillir Tanguy Verluis, qui est Chief Product Officer chez Omi. Il a aussi fondé un média qui s'appelle Le Ticket, que je vais mettre en lien et qui est un média qui s'occupe du monde du produit en France. Le sujet qu'on a décidé de traiter, c'est vraiment celui de l'alignement des équipes via méthodologie, la méthodologie des OKR, Objectives Key Results, très utilisée en startup pour créer de l'alignement et un focus sur les objectifs de la startup. Ce que vous allez voir en fait, c'est que ces OKR sont un moyen et pas une fin, et que la réelle fin de cette méthodologie, bah, c'est d'avoir des gens qui, au sein des collectifs, sachent définir les projets qui permettront d'atteindre la mission commune et le business plan fixé par l'entreprise. Je précise pour le contexte, Omi a une cinquantaine de personnes aujourd'hui et donc la méthodologie qui a été développée par Tanguy s'applique très bien pour ces contextes-là.
Salut Tanguy!
Salut Sarah!
Écoute, merci beaucoup de prendre le temps de discuter aujourd'hui. Je suis ravie de te recevoir dans mon studio et on a beaucoup de chance de t'avoir parce que de ce que j'ai compris, c'est toi le OKR leader chez Omi. Donc, c'est toi le référent sur ces sujets-là.
Ouais, c'est un très beau titre que je réfléchis à mettre sur ma carte de visite. Mais blague à part, c'est la deuxième boîte dans laquelle je participe à l'implémentation des OKR. C'est devenu quelque chose avec lequel je suis familier et sur lequel j'apprends à chaque fois aussi. Mais c'est une mécanique qui, moi, me plaît bien et je pense que je pourrais t'expliquer pourquoi après.
Bah écoute, c'est top. Effectivement, l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de se dire, OK, la méthodologie des OKR, on reverra un petit peu les grands principes, mais sert à avoir la vision et à voir comment elle se décline en résultats puis en projet. Mais comment ça se passe en pratique et comment ça se passe en pratique en startup? Donc, c'est ça qu'on va couvrir. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi?
Ouais, moi, je m'appelle Tanguy. Du coup, j'ai un peu plus de 30 ans. J'ai fait toute ma vie dans des startups et des scale-up, enfin toute mon expérience professionnelle, à des fonctions de product, donc product management, head of product, CPO, maintenant dans une société qui s'appelle Omi. Je suis passé par vente privée, je suis passé par The Fork, qui avait été racheté par TripAdvisor, et dans des plus petites startups. Et aujourd'hui, du coup, je travaille chez Omi Annecy, qui est une entreprise qui a été fondée il y a un peu plus de 2 ans, et qui se positionne comme une marque alimentaire qui distribue des produits en agriculture régénérative. Mon métier, c'est de faire en sorte que les utilisateurs comme toi et moi achètent ces produits, comprennent pourquoi consommer des produits en agriculture régénérative, c'est de new black, et c'est ça qu'il faut faire si on veut avoir de l'impact à travers la nourriture sur le climat et sur la biodiversité.
Et puis, même en tant que consommatrice, je peux dire que votre tisane est vraiment délicieuse. D'ailleurs, j'en ai dans ma tasse, là. Qu'est-ce qui a fait que tu es passée, justement, de The Fork à Omi? Parce que ce n'est pas du tout les mêmes environnements, quand même.
Tout à fait. En fait, les entreprises par lesquelles je suis passée correspondent, je pense comme beaucoup de gens, à des moments de vie pour moi. quand j'ai travaillé chez Vente Privée, pour moi, en tant que product manager, l'objectif, c'était de travailler sur des sites, des applications qui touchaient un maximum d'utilisateurs. Quand je travaillais sur Vente Privée à l'époque, bah, chaque fois que je changeais quelque chose, j'avais l'impression que tous les matins, il y avait 2 millions de personnes qui le voyaient. Ensuite, quand je suis parti chez The Fork, ce que je cherchais, c'était des mentors, une organisation produit mature, ce qui était déjà le cas à l'époque chez The Fork, ce qui n'était pas si courant que ça dans l'écosystème en 2015. Et en sortant de The Fork, je me suis posé la question de est-ce que j'avais envie de faire ce métier-là toute ma vie ? Et en fait, la réponse a été, je ne sais pas si c'est toute ma vie, mais en tout cas, j'adore le métier de product manager. La seule question que je me pose, c'est quel est l'impact de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et en fait, c'est comme ça que je suis rencontré Omi NC. J'ai entendu une des cofondatrices présenter la mission et l'ambition derrière Omi NC, qui est tout simplement de mettre dans les placards de tous les Français et les Françaises des produits qui respectent l'environnement, qui rémunèrent correctement les agriculteurs et les producteurs, et qui a un impact positif sur l'ensemble de la chaîne de production de l'agroalimentaire. Et donc, je me suis dit, OK, la mission, elle est exceptionnelle. L'entreprise a été construite, en tout cas pour moi, elle est exceptionnelle. Elle a été construite autour de cette mission-là. Et moi, j'ai envie de participer à ça avec les compétences que j'ai pu développer dans d'autres entreprises auparavant. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez OVNC.
Donc, tu as une phase, en fait, apprendre sur le tas et avoir de l'impact perso, d'une certaine façon. Ensuite, OK, comment je fais pour me développer, pour aller plus loin? Il faut que j'ai des mentors. Et ensuite, OK, quel est mon impact maintenant que j'ai appris? Finalement, je pourrais être mentor. À quoi je peux appliquer ces connaissances et ces compétences?
Exactement. Je pense que c'est un cheminement qui est assez, finalement assez courant dans l'écosystème. Il se trouve que je suis aussi le cofondateur d'un média dédié au product management qui s'appelle Le Ticket. Et en fait, on interroge régulièrement des product managers. Et aujourd'hui, par exemple, quand on demande aux product managers quelles sont les raisons qui les font changer de boîte, la deuxième raison qu'ils invoquent, c'est la mission de l'entreprise pour laquelle ils pourraient être amenés à travailler. Ça passe devant le salaire. Donc on voit que ça correspond en fait à une prise de conscience d'une partie de l'écosystème, que les produits qu'on crée, alors que nous on parle de produits, on parle surtout d'applications et de sites, ont un impact sur la société et sur les gens qui les utilisent, et qu'on a une responsabilité aussi de mettre nos compétences dans des sujets qui, d'après nous, ont un impact positif sur notre environnement. Mmh. Environnement compris au sens large. Pardon ?
La première raison, je suis curieuse.
La première raison, là je ne l'ai plus en tête. J'ai plus en tête la première raison.
Ah mais non. Bon, alors tu me diras après, et puis je la mettrai dans la description de l'épisode.
Très bien.
Sinon, c'est trop pénible. Et alors, juste pour faire la transition, ta première rencontre avec les OKR, c'était quand et comment ça a évolué?
Ouais, la première fois que j'ai rencontré les OKR, c'était chez The Fork. Donc à l'époque, donc The Fork, qui s'appelait probablement encore à La Fourchette à l'époque, qui est donc un site de réservation et qui avait été racheté quelques années plus tôt, par TripAdvisor. Et à ce moment-là, en fait, l'équipe produit et l'équipe tech représentaient plus de 100 personnes. Et on était dans une boîte qui maîtrisait très bien son business model. C'est-à-dire que typiquement, The Fork était capable de prédire combien ils allaient gagner chaque mois, etc. Et chacune des équipes avait vraiment optimisé sa capacité à faire du run. C'est une boîte qui était devenue très très forte dans la maîtrise de son run. Mais on est arrivé à un moment où en fait l'entreprise s'est posé la question de comment elle faisait pour passer l'étape d'après. Comment elle faisait pour être à nouveau capable d'innover, de lancer de nouvelles lignes de revenus, et puis surtout où chaque équipe indépendamment était devenue très forte pour faire son run, mais où quand il fallait faire des sujets transverses qui embarquaient une grosse partie de l'entreprise, c'était devenu extrêmement compliqué, ne serait-ce que parce que les chiffres qu'on regardait, la manière de les regarder, les objectifs qu'on se mettait n'étaient pas alignés en fait. Chacun fonctionnait très bien dans sa BU, mais au niveau de l'entreprise, il y avait un côté un peu sous-optimal. Et en fait, c'est comme ça que les OKR ont été abordés. On pourra en parler après. Chaque boîte peut aborder les OKR pour des raisons un petit peu différentes. Et c'est comme ça que les OKR ont été abordés. C'était une manière à la fois de réaligner un petit peu tout le monde sur quels étaient les grands enjeux pour l'entreprise, quels étaient les impacts qu'on voulait aller chercher collectivement et puis à l'échelle des différentes business units. Et puis aussi, c'était une manière, il ne faut pas se le cacher, de créer un peu de focus, parce que les équipes tech et produits sont souvent, en tout cas dans les boîtes technologiques, des goulots d'étranglement. Et une manière de maîtriser le goulot d'étranglement, c'est d'avoir fait en amont un filtre sur tous les projets, toutes les initiatives, etc. Et pour faire ça, les OKR sont un très bon outil, parce qu'en fait, ils permettent de dire, si ça, c'est important, par extension, tous les sujets qui ne sont pas dedans sont moins importants et donc moins prioritaires. Et donc, c'est comme ça aussi que ça avait été abordé typiquement chez The Fork. On avait la chance de l'implémenter chez The Fork en décalage d'un an par rapport à TripAdvisor, qu'il avait mis en place à l'échelle de l'organisation aussi, et de pouvoir du coup en utiliser leurs apprentissages. Puis pour le coup, quand je suis arrivé chez Omiency, l'entreprise pour le coup s'était lancée moins d'un an auparavant, mais pour d'autres raisons, on a pensé que c'était le bon moment pour mettre en place les OKR. Les raisons étaient différentes, elles sont plus proches de celles que peut rencontrer une startup early stage pré-product market fit, qui est typiquement, on a beaucoup de chemin des possibles, on a beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, mais des ressources très contraintes. Du coup, comment on fait pour faire rentrer tout ça, sachant qu'on est encore en phase de définition de la mission de l'entreprise, de ses economics principaux, etc. Donc, comment on fait pour que tout ça rentre dans une roadmap avec des ressources très contraintes?
Donc un environnement mouvant, un besoin, beaucoup d'énergie et en même temps. En fait, c'est le même besoin de focus, sauf que pas pour les mêmes raisons d'une certaine façon.
Ouais, exactement. C'est vraiment le propre des organisations qui ont beaucoup d'énergie et qui en même temps ont besoin d'aller chercher soit un market fit, soit des nouvelles lignes de revenus. C'est que tout le monde a son avis sur comment le faire. Et que le premier travail et la première difficulté, c'est de réussir à aligner tout le monde sur quels sont les paris principaux qu'on a envie d'aller faire et que collectivement, on se dit qu'on a envie de faire. Ce qui dégage beaucoup de temps de cerveau pour se concentrer sur l'exécution plus que sur écouter les avis des uns et des autres.
Mmh. Si on redonne un petit peu de contexte rapidement, peut-être que tout le monde n'est pas familier avec le terme OKR. Donc juste, c'est quoi la méthodologie OKR? Qu'est-ce qu'il faut en retenir principalement?
Ouais, c'est intéressant de revenir donc aux origines, et après je vais expliquer ce qui se cache derrière les trois lettres. Aux origines, du coup, c'est une méthodologie qui a été a priori développée dans les années 70 chez Intel, mais surtout qui a connu son envol au tout début des années 2000, puisque en fait John Doerr, qui était dans le board d'Intel dans les années 70, a proposé cette méthodologie au fondateur de Google en 99. Il était membre du board de Google aussi, pour la mise en place, lorsque Google comptait à peu près 30 employés. Donc c'était vraiment le début, c'est vraiment le tout début de Google. Et il leur a proposé cette méthodologie, et en fait, Google l'a a priori gardé tout du long, et l'utilise encore aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont documenté la manière de le faire sur Internet, la manière dont eux, ils le font en tout cas. Et l'effet d'essaimage étant ce qu'il est, les salariés qui ont connu Google, qui ont parti monter d'autres boîtes, etc., ont fait que la méthodologie des OKR, qui avait été développée du coup dans les années 70, s'est retrouvée dans pas mal de boîtes de la Silicon Valley et par extension dans pas mal de boîtes tech du monde entier. Du coup, qu'est-ce qui se cache derrière les trois lettres OKR? Le O, c'est pour objectif. Donc en fait, un objectif, c'est quelque chose qui va répondre à la question de quoi, c'est quoi qu'on a envie de faire. Par exemple, pour donner un exemple peut-être de la vie de tous les jours, je veux être physiquement en forme. Voilà, ça dit pas comment, c'est juste mon objectif. Plus ou moins atteignable, plus ou moins difficile à atteindre. Et puis de là, on va définir ce qu'on appelle des key results, qui vont définir la manière dont je vais mesurer en fait que j'atteins mon objectif. Donc ça dit pas encore exactement comment je vais le faire. Par contre, ça va dire comment je vais mesurer qu'effectivement je suis sur le bon chemin pour atteindre mon objectif. Donc le propre d'un KR, c'est qu'il va être en général borné dans le temps et surtout qu'il va être mesurable. Si je reprends mon exemple, pour être en forme physique, eh ben, mon KR, ça va peut-être être avoir couru 2 fois par semaine, soit une centaine de fois dans l'année, en 2023. Ça va être avoir un rapport gras, pas gras, de l'ordre de 12%. Avoir un IMC de je sais pas combien. Et puis derrière de ça, je vais pouvoir déduire ce qu'on appelle des initiatives ou des projets, c'est sensiblement la même chose, qui là vont être beaucoup plus ce qu'on a l'habitude de manipuler, nous, c'est, je sais pas quoi, je veux m'inscrire à une salle de sport, je veux faire un état des lieux de mon rapport graisseux, etc., etc. Donc ça va être, c'est comme ça qu'on cascade, on part de ce qu'on appelle de l'outcome, donc de là où on a envie d'aller, pour déduire des actions et non pas ce qu'on a tendance à faire naturellement, c'est déduire à partir des projets, des initiatives, parfois des KPI qu'on a envie de suivre, mais voilà, donc c'est une approche descendante comme ça qui permet de suivre et de mesurer le fait qu'on va dans la bonne direction et qu'on est en train de réaliser en l'occurrence la bonne boîte, les bons objectifs, etc.
Pour moi, c'est un peu des deux côtés. Je pense que tu as des projets et tu as les objectifs. Et puis après, on va juste dire, bah, en fait, ce projet-là, il ne rentre pas dans notre scope.
Un exercice que je fais tous les quarters avec une bonne partie de l'équipe d'OmiNC, par exemple, c'est de leur demander quels sont, de me lister dans un fichier quels sont leurs sujets top of mind, que ce soit des objectifs, des key results ou des projets. Et effectivement, l'angle naturel par lequel on rentre, c'est le sujet du projet. C'est toujours plus simple de dire il faut ajouter de la recommandation dans l'application de produit, donc ajouter un cross-sell par exemple, le key result qu'on veut atteindre, c'est que les gens voient 2 fois plus de fiches produits. Et en fait, l'objectif auquel ça correspond, c'est probablement les utilisateurs, enfin le fait que les utilisateurs soient conscients que on a un catalogue très large de produits. Je sais pas si ce sera un bon objectif, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de partir du projet et puis remonter petit à petit ces briques. C'est comme ça qu'on le fait le plus naturellement. Après, quand on est un tout petit peu plus mature dans l'utilisation des OKR, on arrive à remonter d'un cran assez naturellement, voire de 2 crans, et commencer à poser des objectifs. Mais effectivement, il ne faut pas être excessif dans la manière de travailler avec les OKR, ne serait-ce que parce que ce n'est probablement pas notre éducation, mais accepter que l'angle naturel par lequel on va souvent rentrer, c'est le projet, c'est OK. Mais le mouvement qu'on va faire de remonter petit à petit, quand on va le redescendre, va de lui-même écarter certains projets qui au début semblaient pertinents, mais en fait correspondent finalement pas à là où l'entreprise a envie d'avoir le plus d'impact maintenant. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un projet pour le futur, mais maintenant, ce n'est pas ça qu'on va vouloir aller chercher, parce que ce n'est pas ça qui va faire bouger move the needle, comme diraient les Anglais, c'est pas ça qui va faire bouger le curseur de manière suffisamment conséquente.
Et réciproquement, je me dis, en fait, peut-être qu'on pense projet, ensuite on remonte, et puis quand on est plus mature, on arrive à faire ça plus vite ou mieux. En revanche, avoir en tête ta North Star et tes objectifs, ça permet aussi de voir où il y aurait des trous dans la raquette, par exemple des projets que tu n'aurais pas commencé à couvrir ou des choses comme ça, non?
Ouais, tout à fait. Si je reprends le... Alors ça nécessite une chose, c'est que tu saches quelle est ta mission. C'est déjà la première chose. Quand on est dans une entreprise naissante, on a une idée de sa mission. Je ne sais pas si on est forcément toujours capable de l'écrire et de l'écrire de manière à ce qu'elle soit manipulable. Mais partons du principe que t'as une idée assez précise de ce que c'est que ta mission en tant qu'entreprise. Effectivement, la question que tu vas t'amener à te poser au moment où tu vas avoir commencé à écrire tous tes objectifs, c'est est-ce que ces objectifs couvrent les points importants de ma mission et de mon BP? Parce qu'en vrai, les OKR, enfin les objectifs, sont souvent une traduction littéraire de ce qui est écrit dans ta mission et ce qui est écrit dans ton BP. Pour donner un exemple, quand je suis arrivé chez OMI en septembre 2021, on avait écrit une première version des OKR qui devait juste nous permettre d'aller jusqu'à la fin de l'année 2021, enfin en tout cas qui était celui qu'on avait dessiné pour le dernier quarter 2021. Et dedans, il n'y avait que des objectifs. Enfin, le seul objectif qui était écrit, c'était un objectif en termes d'acquisition client et de repeat client, qui mappait bien avec le BP. Mais en revanche, ce qui ne mappait pas du tout, c'était la mission de l'entreprise, qui était notamment tous les sujets autour de la transition agricole et d'aller vers une agriculture régénérative. Donc une agriculture qui a un impact sur l'environnement en captant du carbone, en favorisant la biodiversité, etc. Et ça, en fait, en tant que boîte, c'est dangereux. Parce que tu te rends compte que ce que tu vas mettre en place oublie une des raisons pour laquelle ta boîte existe, qui est cette mission que tu as écrite et qui est ce qui réunit les gens autour de ton entreprise. Et du coup, bah, en fait, quand on a vu cette première version, il y a une partie de l'équipe qui nous a dit « Bah ouais, mais en fait, là, on pourrait être n'importe quelle boîte. » Et du coup, à travers les objectifs qu'on a mis comme les choses importantes pour notre entreprise, on ne retrouve plus la mission de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose du coup qu'on a rattrapé. Mais c'est intéressant de voir à quel point, effectivement, les OKR, enfin, les objectifs en tout cas, doivent être la traduction littéraire à la fois de ton BP et aussi de tes missions, et ça marche dans les deux sens. Il ne faut pas oublier l'un ou l'autre si tu veux construire une entreprise, en tout cas.
Mmh, ouais, j'aime bien la précision de la fin, parce que on pourrait imaginer d'autres modèles où tu pourrais avoir des OKR un petit peu différents. Et justement, là, ce sur quoi tu mets le doigt, c'est que vous avez eu vraiment un besoin d'itérer sur le sujet des OKR. Et je sais que quand on avait discuté par téléphone, tu m'avais dit, bah, les OKR, c'est un vrai investissement. Et souvent, on le sous-estime. Et ça prend même parfois plusieurs années, il me semble, à mettre en place. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots ?
Ouais, quand j'étais, je reviens du coup dans le passé, lorsque j'étais chez The Fork, on en avait parlé du coup avec TripAdvisor, qui au bout de 2 ans considérait qu'il commençait à avoir un système qui tenait la route de bout en bout dans tout le processus des OKR. C'est-à-dire qu'à la fois, ils étaient contents de la manière dont ils les implémentaient, ils les décidaient, mais aussi ils étaient contents de la manière dont les équipes réussissaient à avoir la feedback loop tout au long du trimestre en étant capable de donner du retour sur le niveau d'avancement de leur key result et des projets qui étaient associés. Donc même une entreprise comme TripAdvisor qui baigne dans l'écosystème américain considérait que pour une boîte qui à l'époque faisait 4000 ou 5000 salariés, il lui avait fallu quasiment 2 ans pour la mettre en place. Si je prends l'exemple de Omioti, où pour le coup on est entre 40 et 50, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, ça fait 1 an qu'on a commencé à le mettre en place, et pendant les 3 ou 4 premiers quarters, donc les 3 ou 4 premiers trimestres, pardon, on a itéré à la fois sur la méthode et sur la manière, de les faire vivre au cours du trimestre. Et ça pourquoi ça Ouais. Ouais, je pourrais vous passer par les différentes phases par lesquelles on est passé, mais ouais. Pendant le premier quarter, ce qu'on avait fait, c'était un truc très simple, c'était 4 grandes feuilles A4 en paperboard, enfin 4 paperboard, sur lesquelles on avait écrit l'objectif qu'on poursuivait et les 4 KR qui étaient associés, et on les avait juste affichés au milieu de l'open space. Et on avait fait une version Excel pour les gens en remote aussi, pour qu'ils puissent suivre sans être dans les bureaux. Mais voilà, c'était extrêmement simple. On avait dit, on veut avoir 1000 super customers, donc qui était une définition à l'époque qu'on utilisait, qui était un rapport de fréquence et de ressources dans les utilisateurs qui rachetaient au moins 4 fois dans les X mois passés. Et de ça, on avait juste déduit 4 key results. Donc au début, on est vraiment parti très simple, avec des notions assez basiques et un niveau de suivi assez basique. Le seul avantage, la seule chose qui était vraiment bien, c'est que c'était au milieu de l'open space. Donc toutes les semaines, moi, j'allais écrire à la main le chiffre de là où on en était par rapport à l'objectif, et ça permettait à tout le monde de se rendre compte quel était le chemin encore à parcourir. Mais c'était quelque chose qui était finalement assez top-down. On s'était dit que c'était ça qu'on avait comme objectif. C'était le codir qui s'était dit que c'était ça l'objectif majeur. Et il n'y avait même pas eu de cascade forcément avec les équipes, au-delà de leur expliquer pourquoi on avait mis ça, en termes de projet, de comment ça devait se décliner, comment on devait se l'approprier, etc. Donc ça, c'était la première itération, très simple. Ensuite, on est arrivé du coup au premier quarter, donc au premier trimestre de l'année 2022. On s'est dit, bon, on a posé, on a expliqué à tout le monde ce que c'était que les objectifs, les key results. Maintenant, on va faire en sorte que toute l'entreprise puisse se l'approprier. Donc, on a fait le travail hyper propre. Je me souviens, 26 décembre où vraiment on en parlait et tout, on s'est dit ça va être propre. On a fait un énorme Excel dans lequel il y avait les objectifs pour l'année 2022, les objectifs pour Q1 2022, les objectifs en fonction du cash qu'on aurait à tel moment, etc. de l'année 2022, et puis les key results associés pour le premier trimestre de l'année 2022, et puis quelques-uns qu'on pensait qu'on aurait pour la suite de l'année 2022, etc. On a présenté.
C'est qui ?
C'était le comité de direction d'OMI. On a travaillé dessus, et en particulier moi, qui suis CPO du coup de OMI, et le CEO qui est Christian Georges. Et c'est principalement avec lui qu'on a fait les allers-retours. Et ensuite, on a intégré tout le CODIR, mais c'est vraiment resté à l'échelle du CODIR dans notre processus d'écriture. Mm-hmm. Et après, pour le coup, on l'a présenté à l'ensemble de l'équipe, mais en fait, tu me vois venir, globalement, ça ressemblait un peu à une liste au Père Noël, énorme, difficilement appréhendable par des gens qui le découvrent devant eux, qui découvrent sans ligne et qui se disent par où on commence, comment on l'exécute, etc. Et du coup, on est sorti du premier trimestre 2022 en se disant, bon, on a posé une belle trame. Ça correspond à peu près à tout ce qu'on sait faire, à tout ce qu'on pourrait vouloir faire, mais c'est difficilement appréhendable par l'équipe. Du coup, on a en deuxième trimestre 2022, on a réduit énormément le volume des objectifs et des key results pour se concentrer vraiment sur des sujets extrêmement précis qui étaient des sujets liés à l'acquisition qui correspondaient à nos objectifs du moment. Et ce qui a rendu la chose beaucoup plus facile à manipuler pour l'équipe. Et c'est le premier quarter, probablement, donc c'était déjà le troisième où on le mettait en place, où on s'est dit, OK, entre ce qu'on a écrit au début du quarter et ce qu'on a réalisé à la fin du quarter et l'impact, surtout, qu'on a eu sur notre business, il y a une vraie corrélation. Et du coup, c'est un vrai outil d'alignement, un vrai outil qui force le focus, etc., etc. Mais tu vois, pour en arriver là, en vrai, il y a eu 6 mois où il a fallu, que le top management se dise, on pense qu'on va dans la bonne direction, on pense que c'est comme ça qu'il faut le faire, parce que ça correspond à nos valeurs, parce que ça correspond à la boîte qu'on a envie de construire, et qu'on accepte que le process était loin d'être parfait. On pourra en reparler après, mais c'est très important qu'à partir du moment où on a décidé d'y aller, globalement, on se donne le temps d'y aller et de le faire. Et puis, il y a eu encore une autre itération derrière. Donc là, on arrive au troisième trimestre de l'année 2022, où pour le coup, on a fait l'erreur basique, et on s'est dit, c'est bon, maintenant, on sait comment ça fonctionne, ça marche. Et je sais pas ce qu'on a fait, on a laissé glisser le truc, on a présenté les OKR de Q3 à l'équipe le 1er août de 2022, c'est-à-dire un mois de retard par rapport au début du quarter. Et alors là, quand tu commences avec un mois de retard, du coup, derrière, le quarter, il est compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'on a, pour le coup, processiser derrière la manière de construire nos OKR pour que ça tienne en 15 jours. On pourra en reparler si tu veux, mais en gros, l'ensemble de l'équipe d'OMI sait que pendant 15 jours, les 15 premiers jours du quarter, de chaque quarter, elle a un focus très particulier sur la construction des objectifs, des key results et des initiatives qui lui sont associées pour ensuite pouvoir, pendant les 3 mois qui suivent, les dérouler en ayant une certaine sérénité sur le fait que tout le monde est aligné.
Ça, je veux bien que tu développes, ouais.
Du coup, aujourd'hui, comment ça se passe la construction des OKR, et je reviens à ta question d'origine, ça prend du temps et ça prend du temps à plusieurs personnes. Moi, la manière dont ça se passe, c'est que pendant les 15 jours qui précèdent la fin d'un quarter, je commence déjà à préparer le quarter suivant. Je prépare deux choses. Je prépare à la fois le début du quarter suivant et le fait de fermer le quarter en cours. Donc d'abord, fermer le quarter en cours, ça veut dire récupérer l'ensemble des retours des différentes équipes qu'on travaillait sur les OKR pour savoir où elles en sont, est-ce qu'elles considèrent que les objectifs sont atteints, si oui ou non comprendre pourquoi, est-ce que c'est juste qu'on n'avait pas mis les bonnes ressources en face ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu la bonne communication à l'intérieur de l'équipe pour qu'elle puisse fonctionner ou qu'il y avait des dépendances externes qui n'avaient pas été identifiées, que sais-je. Donc ça, c'est fermer le quarter précédent. Et puis il y a le fait d'ouvrir le quarter suivant qui a un cycle de 15 jours pendant lequel moi je vais faire l'exercice exactement qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire aller faire le tour de tous les membres du CODIR pour récupérer leur top of mind. Donc en gros, en général, ce qui ressort, c'est une liste de entre 150 et 200 lignes qui sont d'un niveau très micro ou trop macro ou très macro. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus tu fais cet exercice-là, plus tu arrives avec le bon niveau de granularité. Mais au début, pour le coup, c'était vraiment une liste il faut faire tel projet, il faut faire tel projet, etc. Ou parfois juste un KPI, atteindre 3000 commandes jour, atteindre, enfin, tu vois, truc difficilement actionnable derrière. Et puis aussi des objectifs très macro. On veut avoir une stack technique du niveau de Netflix. Tu vois, un truc hyper, hyper, hyper macro. Et du coup, le jeu auquel on s'attelle, c'est qu'une fois qu'on a tout ça, réussir à en faire une synthèse qui définit les objectifs du quarter, une première version des key results, et puis une liste de projets qui sont identifiés comme des projets, qu'on ne présente même pas, mais qui font un espèce de dictionnaire des projets dont on a parlé. Et une fois qu'on a... Donc ça, à ce moment-là, on arrive, on est au début du quarter suivant. Et en fait, ces premiers objectifs, qui sont définis, du coup, définis par le CODIR pour le quarter, et une première version des key results sont présentés et partagés avec les équipes. Et les équipes, pour le coup, vont faire un cycle, une boucle, où elles vont proposer d'autres key results ou proposer des reformulations sur les premiers key results. Donc, ce qui participe à un mouvement d'appropriation et aussi nous permet, nous, de vérifier qu'on n'a pas trop d'angle mort. Parce que c'est très possible qu'il y ait des choses qui nous aient échappé dans le processus et que pour répondre à certains objectifs qu'on a proposés, eh ben, il y ait des choses qu'on n'ait pas bien identifiées ou que la manière qu'on pense de mesurer le fait d'y arriver puisse être enrichie, voire complètement changée par ce que proposent les équipes sur le terrain. Donc là, il y a l'ensemble des 50 personnes de Xiaomi qui repassent là-dessus et à l'issue de ça, on a nos objectifs et nos key results qui sont déjà partagé et connu par l'ensemble des gens qui travaillent chez Xiaomi. Et à partir de ça, on a une dernière semaine dans laquelle les équipes s'organisent autour de chaque KR avec un KR lead qui va créer une équipe qui peut être trans-métier pour mener des projets qui vont permettre, d'après cette équipe-là, d'atteindre les cibles qui sont proposées et fixées par les KR. Ce que nous on appelle ces équipes.
Le dictionnaire des projets.
On peut être amené à piocher dans le dictionnaire des projets parce que ça n'aurait pas vraiment eu de sens. En tout cas, c'est toujours la réflexion qu'on a eue d'avoir cette liste de projets puis de la cacher aux équipes en disant bah nous on s'était fait notre petite liste de notre côté. Donc cette liste est publique s'ils veulent piocher dedans, il y a aucun souci. En revanche, il n'y a pas du tout de « il faut prendre ces projets-là », etc. Non, c'est vraiment les gens qui s'engagent, qui se committent pour porter les KR, donc les équipes qui s'engagent pour porter les KR, qui définissent les projets et l'ordre des projets dans lesquels qui vont permettre d'atteindre les key results sur lesquels ils ou elles se sont engagés.
Ce que je trouve super intéressant dans la façon dont vous faites l'exercice, c'est d'une part la façon dont vous avez réussi à engager les équipes petit à petit, c'était pas forcément gagné au tout début, et ensuite c'est vraiment le processus, c'est-à-dire que si je pensais tout de suite en termes de « il faut que je sorte les objectifs », je me censurerais en réalité, ou alors je me dirais « et alors que là en fait c'est un peu comme un brainstorm quoi, on dit ce qui nous passe par la tête, on rassemble tout, et il y a quelqu'un, en l'occurrence toi, qui fait le tri, qui synthétise, qui reformule peut-être, et puis la phase d'appropriation derrière.
Tout à fait, ouais, c'est là où je disais que ça prend du temps, il faut accepter de prendre ce temps. Il y a quelques jours, je présentais ce processus à un head of product d'une grosse scale-up française, qui me disait, mais en fait, du coup, pendant 4 semaines, tous les quarters, tu réfléchis à ça, c'est quelque chose qui te prend du temps. Ça veut dire aussi que pendant les 2 premières semaines de chaque quarter, les équipes ont une partie de leur bande passante qui est occupée au fait de définir ce qu'ils vont faire juste dans les 3 mois qui suivent. Ça lui paraissait un peu du surinvestissement. Et c'est pour ça que c'est un choix, en fait. Hein. C'est un vrai choix organisationnel. Peut-être que c'est encore possible de réduire le temps que ça prend. Hein. Je dis pas qu'on a trouvé la méthode parfaite. Mais en tout cas, ce dont il faut être conscient, pardon, c'est que, un, ça va prendre du temps, et deux, celui ou celle qui va prendre sur lui le fait d'organiser tout ça, de faire la synthèse, d'entendre tout le monde, et de porter ce sujet-là, ça va aussi lui prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais moi, je sais que les 3 semaines qui enfin les 3 semaines autour de la fin d'un quarter et début d'un nouveau quarter, globalement, je vais avoir à peu près 50% de ma bande passante qui va être quasiment dédiée à ça. Mais on pense, et c'est un vrai pari, que c'est un outil pour construire la boîte qu'on pense être la bonne. Et on pense que c'est un bon investissement aussi parce que ça participe au fait de construire une boîte avec les gens qui la composent et l'ensemble, et que c'est comme ça qu'on arrivera à construire la boîte qui réussira et à créer cette catégorie qui est l'alimentation par l'agriculture régénérative.
Mmh. Et on en revient à ce que tu disais sur la mission. Alors, il faut que ce soit lié émission et BP. On a bien compris, les deux sont importants.
Exactement.
Peut-être une question, c'est vrai que je n'ai pas creusé parce que je sais que vous faites à la fois par année et par quarter chez OMI. Mais du coup, justement, pourquoi ce choix ? Pourquoi c'est pertinent ? Voilà.
Ouais. Alors, en tout cas, chez OMI, on trouve ça pertinent d'avoir des objectifs à la fois annuels et de quarter parce que notre entreprise, ça s'applique peut-être pas à toutes les entreprises, mais notre entreprise, donc, j'en parlais, sa mission, c'est d'utiliser l'agriculture régénérative pour avoir un impact sur le climat. Et quand on parle d'agriculture, quand on parle de climat, en fait, on parle de choses qui se travaillent sur le temps long. Participer à la transition agricole, c'est-à-dire accompagner les agriculteurs avec lesquels on bosse, avec lesquels on travaille, qu'on a sélectionné, dans leur transition agricole, c'est-à-dire dans le fait de modifier une partie de leur pratique agricole pour derrière avoir un impact sur la planète, sur la biodiversité, et sur la captation carbone, etc. C'est pas un processus qui se fait à l'échelle d'un quarter. On est sur des cycles naturels, on est sur la vraie vie. Et du coup, en fait, c'est bien qu'on ait des objectifs annuels qui map ça, qui montre que en fait on s'inscrit dans le temps long, qui respecte les cycles de la nature, mais qu'en même temps nous on s'oblige à découper ça en plus petits ensembles. Si je te prends un exemple qui est peut-être plus parlant, globalement, si on dit que OMI veut être identifié comme le leader de l'agriculture régénérative en France, ça c'est pas quelque chose qu'on va réaliser à l'échelle d'une année, parce que pour être identifié comme ça, il faut d'abord avoir construit tous les éléments de preuve, tous les éléments de langage, la manière de le raconter, mais aussi du coup avoir derrière créé les filières associées, parce que l'agriculture régénérative c'est quelque chose de relativement neuf, en tout cas en France. Donc voilà, tous ces éléments là se construisent pas à l'échelle d'un quarter. Du coup, on les inscrit à l'échelle des objectifs annuels. En revanche, au niveau du quarter, tu vas retrouver des choses qui sont un peu plus manipulables sur un temps de 3 mois. Typiquement, ça peut être avoir mis en place chez tous nos agriculteurs l'indice de régénération, qui est un indice qui nous permet de mesurer du coup où en sont nos agriculteurs dans leur transition agricole vers l'agriculture régénérative.
Mmh. Super clair. Et ma deuxième question, c'était sur comment tu fais vivre ça au quotidien, parce qu'on a mentionné comment on les élabore. Et je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu allais changer les chiffres sur le tableau blanc.
Ouais, c'est une très bonne question. Et pour le coup, on n'a pas encore parfaitement la réponse. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on construit donc les OKR du quarter, il y a un ou une KR lead qui dit « moi, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire bouger cet indicateur-là dans le sens où on a décidé qu'il fallait qu'il bouge. » Et il ou elle construit une équipe autour de ça. En général, 4 ou 5 personnes, pas plus, qui sont des petites équipes resserrées, qui sont engagées à l'échelle du quarter sur le fait de faire bouger le key result et qui, en général, du coup, portent les projets qui sont associés. Donc ça, pour le coup, c'est comme ça qu'on fait que ça vit tout au long du quarter, parce qu'en fait, c'est des équipes qui se réunissent toutes les semaines, toutes les 2 semaines, qui, du coup, les portent et qui, à peu près, toutes les 15 jours, 3 semaines, reportent au niveau global dans un ocean tout bête, là où ils pensent qu'ils en sont de la réussite de leur key result. Pas de leur projet, hein, des key results. Les projets étant les moyens d'atteindre. Ouais. Et donc, c'est une perception, parce qu'il y a plein de fois, en fait, c'est pas si simple que ça de mesurer en permanence. Si je te donne un exemple, il y a des trucs qui sont extrêmement simples à mesurer, par exemple, je sais pas, le taux de conversion. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on mesure. Et si on s'était dit qu'on avait un key result qui est d'augmenter de X% le taux de conversion, ben on peut se dire, si on lisse sur le mois, on connaît notre point de départ, notre point d'arrivée, pardon, on lisse sur le quarter, on est capable d'avoir à peu près une estimation de là où on en est. Mais si je te dis que c'est le fait, je sais pas moi, reprenons tout à l'heure le fait d'avoir 30% des agriculteurs DOMI dont on a fait l'audit et calculé l'indice de régénération, bah en fait en début de quarter, le temps de caler toutes les réunions, enfin tous les meetings qui vont nous permettre d'aller sur le terrain, faire calculer cet indice, etc. En fait, il y aura déjà eu de l'activité au début, mais qui ne sera pas mesurable parce qu'on en sera toujours à zéro, mais c'est juste que ça va se débloquer en fin de quarter. Donc en fait, on fait confiance aux équipes sur leur capacité à apprécier là où ils en sont ou pas. Ceci étant dit, avoir cette boucle permanente de « je m'en sors pas », « j'aurais besoin de ça pour y arriver », etc. C'est encore quelque chose sur lequel on travaille. Et aujourd'hui encore, pour le coup, on considère pas qu'on est arrivé au niveau où on est capable à un instant T d'avoir une photo exacte de là où on en est, là où il y a un risque exact, etc. etc. On se force à le faire à mi-quarter et à la fin du quarter de manière extrêmement explicite avec tout le monde. Mais en cours de route, c'est encore un processus sur lequel on travaille.
Ah, c'est super intéressant. Et maintenant, si je prends du recul pour nos auditeurs, sur les erreurs un peu classiques ou les erreurs que vous avez pu faire à éviter. Finalement, on les a un peu évoquées au fur et à mesure de la discussion, mais c'est voilà, si tu devais les lister, quelles seraient-elles ?
Bah, je pense que la première, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, c'est de vouloir essayer de mapper toute l'entreprise. C'est un des trucs, en tout cas, une des choses qui revient le plus souvent quand on présente les OKR, des gens qui me disent, bah, en fait, moi, l'activité de mon équipe, je la retrouve dans aucun OKR. En tout cas, j'ai l'impression que du coup, il n'y a rien qui directionnellement pointe mon activité, ce qui me prend 80% de mon temps. Et en fait, le réflexe, c'est de se dire, ah ben en fait, s'il y a une partie de l'activité de l'entreprise qui n'est pas mappée, c'est probablement qu'on a oublié un truc. Ou l'autre manière de percevoir les choses, c'est et qui est grave, c'est qu'une partie des employés se disent, bah en fait, c'est pas important ce que je fais. Et en fait, pas du tout, c'est pas du tout ça. Mais nous, du coup, on s'est fait un peu de nos cerveaux par rapport à ça, c'est pour ça que j'en parle. Ça veut juste dire que ce qui est mappé dans les OKR, c'est les choses qui sont plutôt, en tout cas chez nous, qui sont plutôt de l'ordre de la construction, du build. C'est pas les choses qui font tourner ton entreprise au jour le jour. Et il y a quand même une partie de l'activité des choses, tu les as construites par le passé, et aujourd'hui, il s'agit juste, entre guillemets, de faire qu'elles continuent à fonctionner parce qu'elles sont importantes. Et il y a des équipes, à un moment, elles vont être au cœur de tes OKR parce qu'il faut construire des choses pour qu'elles puissent fonctionner. Et puis à un moment, en fait, c'est bon, tu l'as stabilisé, tu as ancré le fait que ça fonctionnait. Et le sujet, c'est de faire en sorte que ça continue à fonctionner sans bump, mais juste que ça continue à fonctionner. Et ça dépend des moments. Il y a des moments, du coup, une équipe va être au cœur des OKR et de temps en temps, elle va même pas y apparaître ou peut y apparaître dans son activité de tous les jours, tout simplement parce que, en fait, c'est déjà en maîtrise et qu'on n'a pas besoin de faire un espèce de saut dans leur manière de fonctionner ou dans l'impact qu'elles ont à l'échelle de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ça t'enlève un peu de charge mentale parce que ça t'évite d'avoir à regarder tout le temps ta liste en te disant est-ce que tout le monde va s'y retrouver quelque part. Et c'est intéressant de voir qu'on a tous les mêmes questionnements. Et je pense qu'il y a un autre questionnement, en tout cas nous qu'on a choisi d'écarter pour le moment, qui est assez commun à partir du moment où tu commences à parler des OKR, qui est la manière dont tu les fais cascader. Il y a une espèce de fantasme intellectuel, en tout cas probablement pour des boîtes relativement petites de type start-up, qui consiste à se dire il faut qu'il y ait de la récursivité dans les OKR, c'est-à-dire que les OKR d'équipe se retrouvent dans les OKR individuels qui vont m'aider derrière à mesurer la performance de mes équipes, voire des individus, etc., etc. Et en fait, ça, pour le coup, quand tu commences à le mettre en place, c'est encore un autre niveau de machinerie. Probablement que dans les entreprises, en tout cas, qui sont plutôt de l'ordre de la start-up, qui ont quelques dizaines ou quelques centaines d'employés, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir ce niveau de machinerie que tu peux retrouver dans des très grandes entreprises où tu as un effet de cascade où les OKR ou les KR, en tout cas, se retrouvent déclinés à l'échelle d'équipe, à l'échelle d'individus, etc., etc. On peut les partager tous, avoir les mêmes OKR, il n'y a pas forcément besoin que ça devienne un outil pour mesurer la performance des individus. des retours d'expérience que j'ai, c'est que ça peut mettre même un piège très vite de faire une corrélation directe entre typiquement les bonus, l'évaluation de la performance et la réussite des KR. Parce qu'une des choses qu'on n'a pas dit, et qui est, c'est une erreur de ma part, c'est que souvent, tu fixes des objectifs et des key results qui, pour une partie d'entre elles, sont très difficilement atteignables, voire inatteignables. Je crois que chez Google, ils considèrent qu'ils ont des top performers quand c'est des gens qui atteignent 70% des key results à l'échelle d'un trimestre. Donc, il faut accepter le fait que, en fait, tu es aussi dans une logique de l'échec permanent. En tout cas, du semi-échec permanent. Et ça, c'est assez dur à accepter comme constat. Il faut l'accompagner parce que ça veut dire que des gens, a priori, que tu as recrutés, donc qui sont bons, vont devoir vivre avec le fait qu'ils ont beau s'être beaucoup investi, avoir mis beaucoup d'énergie, et ben, les objectifs qu'on avait fixés au début, il fallait vraiment que toutes les planètes s'alignent pour pouvoir les atteindre et qu'il y aura une partie de ce qu'ils ont fait qui sera en échec, et que c'est OK, et que c'est plutôt dans le fait d'apprendre aussi en cours de route comment on fait pour réduire ce niveau d'échec que l'entreprise grandit.
OK, ouais écoute, vraiment passionnant, parce que c'est vrai que la tentation est forte de se dire, tiens, à l'échelle individuelle, peut-être les résultats, on peut les mesurer, l'aune des KR, mais c'est pas les mêmes outils, pas les mêmes enjeux ou objectifs, peut-être plutôt.
Tout à fait. En tout cas, peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça peut fonctionner dans certaines entreprises, mais je pense que déjà, rien que l'effort de mettre en place les OKR au niveau d'une entreprise est déjà tellement important et demande un effort tellement délibéré que si en plus tu rajoutes par-dessus des sujets de RH, de revenus, etc., tu risques un peu de te tirer une balle dans le pied et de tuer ton initiative autour des OKR avec cette volonté de mettre finalement trop de complexité dans le système. Mmh. Comme je viens de le raconter, c'est déjà suffisamment compliqué de le mettre en place à l'échelle de toute la boîte.
Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois justement dans les erreurs classiques ?
Ouais, en tout cas, je pense qu'il y a, un truc qui est important pour que ça puisse fonctionner. C'est la maîtrise. Donc tout à l'heure, je disais que les OKR, c'était la traduction de ta mission et de ton BP. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut que ta mission soit relativement claire, en tout cas qu'elle soit partagée et comprise. C'est le premier truc. Et c'est pareil pour ton BP, sur tes economics principaux. Et en fait, ça, c'est un truc qui est assez compliqué à faire. Et c'est rendre manipulable ton BP par l'ensemble de tes équipes. Comprendre, par exemple, ce que c'est qu'une marge opérationnelle. Comprendre ce que c'est qu'une marge brute, la différence entre un chiffre d'affaires et un EBITDA. C'est pas des notions qui sont communes dans une entreprise, tout le monde maîtrise pas ces choses-là. Il n'empêche que tu vas souvent les retrouver au niveau de tes key results, et que la relation qu'il y a entre tous ces éléments-là, il faut que tout le monde les comprenne. Et nous, typiquement, c'est un travail qu'on essaye de faire, mais qu'on n'avait pas forcément perçu au début, c'est de faire en sorte d'avoir une vraie transparence sur l'ensemble de ces chiffres-là. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut qu'il y ait de la transparence, il faut aussi expliquer ce qu'ils veulent dire. Parce que
ça reste pas transparent. C'est la différence entre données et information.
Exactement, c'est ça. Et du coup, ça veut dire qu'il faut rendre malléable les données principales par toute personne dans l'entreprise. Et ça, c'est un véritable travail aussi que moi, en tout cas, je n'avais pas anticipé, qui consiste à ce que tout le monde comprenne quelle est la corrélation entre ta top line et puis les éléments qui se trouvent en dessous, et pourquoi c'est important de regarder des marges intermédiaires par rapport à la construction de ton business, et pourquoi du coup ça va se retrouver dans la manière dont tu câbles tes key results et les projets qui sont associés. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas moi, que j'ai découvert sur le chemin, dont j'étais pas forcément conscient, et du coup qui nécessite d'avoir mine de rien une sacrée transparence vis-à-vis de tes équipes sur tes économiques à un instant T, pour qu'ils comprennent là où est l'enjeu, parce qu'il peut se déplacer dans le temps aussi.
Ouais, je vois, ouais. Donc c'est, en plus, c'est spécifique à chaque business. Et ça veut dire, juste par curiosité, vous faites des présentations sur des sujets ou des métriques, ou est-ce que c'est plutôt informel, c'est-à-dire...
Non, typiquement, pendant le HoloLens, donc la réunion qu'on a tous les mois, ça peut arriver que la CFO présente la décomposition de la marge d'une commande chez Omi. Donc imaginons que Xiaomi en a une commande à 60 euros, bah, elle va te montrer où est-ce que, du coup, dans les 60 euros, quoi va où, et du coup, combien il reste à la fin, et tu comprends, du coup, bah, toutes les étapes intermédiaires qui font que tu as une commande qui est rentable ou pas rentable. Et bah, ça, c'est un exercice qu'on a fait, typiquement chez Xiaomi, devant tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre les différents niveaux de marge, et puisse comprendre pourquoi c'est important, de, quand on fait une offre promotionnelle, bah, de prendre en considération l'impact que ça va avoir, du coup, sur les dernières lignes du bilan.
Oh bah écoute, c'est passionnant. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin. Donc je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter quand même, parce que ça vaut le coup de tirer le fil, mais...
Je pense que la dernière chose que je voudrais partager, c'est que peut-être que ça s'entend dans ce que je raconte, c'est que c'est un processus qu'on met en place et qui ne peut pas se révéler à son plein potentiel si on ne lui donne pas le temps. Et si on ne lui donne pas non plus le mandat. C'est-à-dire qu'il faut que le top management se fasse une conviction que c'est la bonne méthodologie. Il y en a d'autres possibles. Il y a d'autres manières de prioriser, il y a d'autres manières d'organiser sa boîte autour d'objectifs communs. Mais à partir du moment où on a décidé d'y aller, il faut accepter que ça va prendre un peu de temps et que ça va prendre de l'énergie qu'il va falloir faire preuve d'un peu de conviction. Parce que sinon, en fait, bah, ça va être juste un coup d'épée dans l'eau. Si on donne qu'un quart d'heure pour y arriver, collectivement, on va juste faire le constat que bah, ça n'a pas apporté toute sa valeur à l'échelle d'un quart d'heure, et donc le dropper. Alors qu'en fait, c'est dans le processus aussi d'amélioration et d'utilisation des OKR à l'échelle de l'entreprise qu'on en découvre probablement toute sa valeur. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai découvert en cours de route à quel point ça permettait de créer ce qu'on peut appeler des empowered teams, c'est-à-dire des équipes qui se sentent responsables des résultats de l'entreprise, parce qu'en fait, on leur a donné les moyens de se sentir responsables, et on leur a aussi prouvé qu'on a été en confiance, parce que c'est eux qui définissent quels sont les projets qu'ils vont ou pas mettre pour réaliser les objectifs. Et le dernier élément, c'est que je pense que c'est encore, peut-être que d'autres diront le contraire, mais au niveau des objectifs, c'est encore de la responsabilité du comité de direction de définir quels sont les objectifs de la boîte pour créer ce cadre qui permet à l'ensemble de l'entreprise de travailler en ayant effectivement ce que tu décrivais tout à l'heure, cette liberté d'esprit de savoir qu'on est en train d'opérer dans le bon monde et que du coup, c'est très important que le comité de direction, à la fois, quand il a décidé d'y aller, pousse l'exercice au-delà de un quarter ou deux quarters et s'impose cette discipline de créer le cadre dans lequel les équipes vont pouvoir opérer en sachant qu'elles opèrent dans le bon monde.
Mmh. Et tu m'offres une très belle transition sur la dernière question. Tu parles de Empowered Teams et au début, tu m'as expliqué ce qui t'avait pris au trip chez Xiaomi. Et donc, moi, ma question pour toi, c'est... à quoi ça ressemble une culture dans laquelle on a envie de rester, dans laquelle on se sent grandir?
Ouais, c'est un truc que j'ai réalisé il y a peu de temps en parlant avec d'autres entreprises, c'est qu'on avait une chance extraordinaire chez Xiaomi, c'est que les gens sont là pour la mission. Et ça fait c'est assez extraordinaire, on n'a jamais de discussion autour de... des intérêts personnels des individus, chez Xiaomi aujourd'hui en tout cas, parce que la raison pour laquelle les gens tous les jours travaillent, c'est qu'ils veulent que ce monde qu'on décrit, c'est-à-dire un monde où la manière dont on mange a un impact sur le monde, se réalise. Et ça, c'est extrêmement puissant pour créer des empowered teams, parce qu'en fait, les individus comprennent qu'ils sont en train de participer à quelque chose de plus grand, et il le croit profondément, alors ça se réalisera, ça se réalisera pas, mais en tout cas il croit profondément que la direction dans laquelle on va est la bonne, et que du coup la mission qu'on a écrite est la bonne, et que du coup le processus des OKR n'est qu'un moyen pour réaliser cette mission, et qu'ils ont donc tout intérêt à s'y inscrire et à les faire vivre pour que la mission existe. Donc ça c'est quelque chose qui moi aujourd'hui me prend au trip, c'est de voir tous les jours cette équipe qui veut réaliser cette mission-là et qui déploie une énergie de dingue pour qu'elle existe effectivement.
Tu m'as donné un frisson. Bah écoute, merci beaucoup Tanguy pour la discussion. C'était hyper intéressant et hyper concret aussi.
Je te remercie beaucoup Sarah pour l'invitation.
Et voilà, c'est dans la boîte. Ce que je retiens de cet épisode sur les OKR avec Tanguy, c'est que les OKR, c'est d'abord et avant tout un outil d'alignement des équipes à qui il s'agit de donner des leviers pour agir de façon autonome. Donc le sens en fait de cette méthodologie, c'est d'être un moyen pour arriver à une fin, qui est donc de se mettre en marche vers une direction commune, et ce, dans des groupes de plus en plus grands. Le deuxième point que je retiens, c'est que les OKR, c'est une traduction de quelque chose qui doit déjà avoir été écrit et formalisé, à savoir déjà la mission de l'entreprise, si tant est qu'elle en est une, et son business plan. Et donc, il va falloir clarifier les notions du business plan pour que les équipes puissent se les approprier. Ce qui en découle de cet objectif d'alignement, c'est qu'il y a un côté top-down pour poser le cadre, et un côté bottom-up, donc à savoir, peut-être le codir va proposer les objectifs et les key results. Il faut un feedback de la part des équipes sur ces key results et que les équipes proposent elles-mêmes des projets pour y arriver. Enfin, c'est un investissement conséquent en termes de temps. C'est un vrai choix d'entreprise, un choix organisationnel qui traduit justement l'importance donnée à l'alignement dans les équipes. Et ce n'est pas forcément un choix qu'on fera dans toutes les entreprises. Et donc, n'abandonnez pas trop vite si vous êtes en galère. N'hésitez pas à contacter Tanguy pour un partage d'expérience dans cette très belle entreprise qui est Omi.